France Inter.
France Inter, partenaire de l'exposition Dynastie jusqu'au 5 septembre au Musée d'art moderne de la ville de Paris et au Palais de Tokyo. Deux lieux, 40 artistes, 80 propositions pour une exposition consacrée à la scène contemporaine émergente. Une collaboration inédite entre le Musée d'art moderne de la ville de Paris et le Palais de Tokyo. Retrouvez Dynastie dans les émissions de France Inter et sur franceinter.com. France Inter.
La différence.
15h04 sur France Inter. Dans quelques instants, Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Madame Bettencourt, je vous appelle à nouveau pour la suite de la liste pour les chèques. Pour Madame Dati, c'est fait. Madame Pécresse, c'est fait. Madame Wörth ne travaille plus. Elle s'entendait pas avec ça. Vous la verrez plus, hein, vous la verrez plus. Oui, elle est gentille, madame, bien sûr qu'elle est gentille. Madame Bettencourt, qui vous a fait acheter une île. Une île. Dans les BAM, les Caïmans, les îles Caïmans, je ne sais plus, madame Bettencourt, il faut que je regarde. Mais vous n'aurez pas d'impôt, madame Bettencourt. Non, je vous assure, vous n'aurez. Enfin, disons que vous allez payer des impôts. Et après, Monsieur Wörth va vous faire un chèque et va vous les rembourser. Bouclier fiscal, ça s'appelle, Madame Bettencourt, le bouclier fiscal. Non, ils ne reviendront pas, Madame Bettencourt. Ils ne reviendront pas, je vous jure. Les socialo-communistes, non, je vous assure qu'ils ne reviendront pas. Vous inquiétez pas. Vous ferez un chèque des impôts et Monsieur Wörth vous le remboursera après. Hein, complètement, intégralement. Voilà, je vous rappelle demain pour la suite de la liste pour les chèques. Oui, le juge, oui, le, non, on va lui dire ce qu'il faut dire. On lui dira ce qu'il faut dire, vous inquiétez pas. Voilà, bonne journée, Madame Bettencourt.
Oui, ce matin, Monsieur Alain Finkielkraut, philosophe courtisan, a pendant près de 20 minutes insulté les joueurs de l'équipe de France de football en les qualifiant de racailles des cités. Mais ces joueurs qui boycottent un entraînement par solidarité avec l'un des leurs, ce ne sont que des gladiateurs, bien payés certes, mais gladiateurs quand même, sans lesquels les jeux du cirque ne généreraient pas les milliards de dollars qui engraissent une infime minorité de financiers et d'affairiques. Et M. Finkielkraut en appelle aux instances supérieures du foot pour annuler le match de mardi, en faisant semblant d'ignorer que les instances supérieures du foot, ce sont le fric, l'argent, les finances et la bourse. Faire croire qu'on peut annuler un match en allant contre les intérêts de Bouygues, TF1, Orange, Canal+, M. Courbit et ses paris en ligue, et tous les autres sponsors, c'est vraiment se moquer des auditeurs.
Ce matin sur France Inter, l'inénarrable Finkielkraut en consultant football. Je dis l'inénarrable, j'aurais pu dire le désopilant Finkielkraut, car l'autre soir, il était à la télévision en consultant humour, cette fois flanqué de l'irrésistible Marie-France Garraud. Et franchement, si vous n'avez jamais vu ce numéro de duettiste hilarant, ne les manquez surtout pas à la première occasion. Mais ce matin, Alain Finkielkraut n'est pas resté longtemps, le grand comique que nous aimons tant. Très vite a reparu le professeur de vertu, avec son rictus de haine et de peur, haine de la jeunesse et peur de la banlieue. Les bleus, la coupe du monde et le scandale lui importaient peu. Saisissant cette occasion, ce qu'il avait à dire uniquement, c'était la peur et la haine que nous lui inspirons, nous, les banlieusards de Seine-Saint-Denis particulièrement, où j'habite. Avec pour finir, une pointe de sarkozysme honteux qui le pousse au délire. « Touche-moi pas, tu me salis », c'était selon lui une agression d'une extrême violence. Mais « casse-toi, pauvre con », après tout, c'était justifié. Qui nous délivrera de Finkielkraut?
Très bonne émission hein, sur les sans-papiers africains de la place de la Bastille. On attend maintenant avec impatience l'émission que vous avez sûrement préparée sur l'autre grande manifestation d'immigrés et de sans-papiers du week-end, celle de Belleville, quartier populaire et historique. Et ce samedi, il n'était pas 200 ou 300 comme à la Bastille, mais 8500. Tous immigrés récents, tous chinois, dont beaucoup de travailleurs sans-papiers. Ils manifestaient contre l'insécurité dont ils sont les victimes. De la part de qui ? Figurez-vous qu'ils sont régulièrement attaqués, volés, frappés et même violés par des bandes de maghrébins et d'africains, c'est eux qu'ils précisent, hein, qui s'en prennent aux femmes et aux jeunes isolés en sachant que ceux-ci parlent mal le français et qu'ils ne peuvent pas porter plainte car ils sont souvent sans papier. Les immigrés chinois travaillent beaucoup, veulent gagner leur vie plutôt honnêtement et élever dignement leurs enfants à qui ils recommandent de bien travailler à l'école, c'est dire s'ils sont bêtes, hein, mais c'est comme ça. Les manifestants chinois demandaient de la sécurité, des policiers, des juges, sinon ils allaient être obligés de se défendre eux-mêmes et de se faire justice, peut-être avec des milices comme en Padanie. Mais votre future émission sur cette manif va éclairer tout ça, car les médias en ont très peu parlé, sauf Le Monde qui, avant de disparaître, se met enfin à faire son travail. Certains journalistes pensent qu'en prenant le contre-pied des choix éditoriaux dominants, ils préparent la révolution. Mais on s'aperçoit vite qu'ils pratiquent la même censure et le même despotisme sur les sujets qui n'entrent pas dans leur cadre idéologique. Et c'est ainsi que Besancenot fera toujours 2 à 4% des voix et que rien ne changera. Devinez qui s'en réjouit. Le grand révolutionnaire Stéphane Bern maintient toute sa confiance à Didier Porte et Philippe Val reconduira Daniel Mermet. On est rassuré.
Entendu sur France Inter ce matin au journal de 8h, une journaliste, j'ose ce terme, à propos des jeunes meurtriers de policiers. Dans l'autre sens, on parle de bavure policière, affaire de vocabulaire. Ces jeunes, donc, ont un dénominateur commun. Ils sont issus de familles polygames. Rien n'est dit, et tout est dit.
Ouais, ce matin, aux informations de 6h, là, avant de descendre dans la campagne, j'ai entendu que il y avait un gars qui râlait parce que Sarkozy avait fait aucun mot pour les victimes. Alors, je parle de Draguignan, des inondations et des morts qu'il y a eu. Comme Sarkozy en fait une exploitation politique, moi, je vais pas me gêner non plus. Donc, tous ceux qui doivent être indemnisés, là, dans le Var, que ce soit à Saint-Raphaël, à Roquebrune ou ailleurs, ou à Draguignan, ayez une petite pensée pour ces restaurateurs de la Croisette qui ont reçu une vague de 2 mètres dans leur truc, qui leur a pété 3 chaises, et ils ont été payés pratiquement le lendemain, quoi. Que ce soit à Nice ou à Cannes, ils ont été arrosés tout de suite. Donc, on donne qu'au gros. Pour ce qui concerne les dégâts qu'il y a eu à Saint-Raphaël, on a retrouvé les 4 copains. Ils étaient dans la merde, et c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont rien, ils vivent en caravane. Et hier, ils disaient, on n'a rien, mais on a tout perdu. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, ils vont à l'association Alice, qui s'occupe des SDF sur Saint-Raphaël, et puis ils leur apportent un coup de main, parce qu'il faut essayer de trouver 4 ronds pour qu'à nouveau ils puissent dormir, même dans une caravane. Allez, ciao vivre, portez-vous bien.
Si je comprends bien ce que j'entends en ce moment sur France Inter, c'est que ce sont les salariés privés ou publics qui coûtent cher à la France. Ce ne sont pas les 74 milliards et plus de fraudes fiscales ou de niches fiscales dans les paradis fiscaux, non, ce sont les salariés. Mais quand est-ce qu'on va se réveiller ?
À l'instant même, on va se réveiller tout de suite. Dans là-bas, si j'y suis, on va répondre à la question posée par cette auditrice dans ce dernier message. Merci en tout cas pour tous les autres messages. Vous avez entendu, ça tangue sérieusement dans la boîte vocale de la Bastille, j'y suis. Et c'est passionnant. Merci à tous et à tous ceux qui ont été un petit peu étonnés, qui ont avalé leur tartine de travers hier matin en écoutant Alain Finkielkraut, interrogé par Nicolas Demorand. Il est récidiviste, notre camarade Alain Finkielkraut. Vous trouverez très facilement les propos qu'il a tenus en 2005, donc il y a 5 ans, qui étaient à peu près du même tonneau, au journal Haaretz. À l'époque, les médias, les autres, le philosophe, entre guillemets, avaient considéré que ses propos étaient racistes. Et ben, on voit que aujourd'hui, ça passe très facilement, sans aucun problème, beaucoup plus facilement que certaines insanités et autres propos vulgaires. Donc, aujourd'hui, on va répondre comme on pourra, le mieux possible, c'est évident, à l'interrogation de cette auditrice, sur, au fond, l'économie. Or là, il va y avoir un grand moment à la fin de cette semaine. Non, c'est pas seulement la finale que laquelle la France va participer, à n'en pas douter. C'est le G20. Le G20 qui va se tenir à Toronto les 27 et 28 juin, donc à la fin de cette semaine. Et ce G20 va être marqué d'un grand moment. C'est l'instauration d'une taxe sur les transactions financières. Taxe sur les transactions financières. TTF. C'est ce que veut, en tout cas, semble-t-il, notre président. C'est ce que veut, semble-t-il, la chancelière allemande Angela Merkel. Et c'est ce dont doutent nos invités. Qui sont nos invités? Eh bien, c'est Aurélie Trouvé, d'Attaque. C'est Dominique Plion, d'Attaque. C'est Suzanne Georges, également d'Attaque, qui vient de publier un ouvrage qui s'intitule « Leur crise, nos solutions ». Et c'est également James Galbraith. James Galbraith, l'auteur d'un livre qui vient de sortir également, qui s'intitule « L'État prédateur ». James Galbraith n'est autre que le fils de John Galbraith, qui est un célèbre économiste et penseur social américain, qui fut un conseiller de Roosevelt, puis de Kennedy, etc., etc. Eh bien, vous allez entendre que son fils, James Galbraith, on pourra dire que les chiens ne font pas des chats, ou le contraire, que les chats ne font pas des chiens. Bref, vous avez compris que nous allons essayer, avec nos 4 experts, économistes et engagés, puisqu'il s'agit d'Attaque, de voir si effectivement ceux qui ont milité depuis 98 pour la taxe Tobin, la fameuse taxe Tobin, vont voir enfin leur rêve réalisé, en route pour le G20. Donc, auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis, qui tangue, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, c'est Marion, je suis médecin en zone rurale. J'aimerais bien que notre ministre de la Santé revienne ici, parce que c'est pas tout de s'occuper des footballeurs. Je voulais dire aussi qu'elle nous a livré des vaccins là au mois de mars. J'en ai plein dans mon frigo, dans mon cabinet, je ne sais pas quoi en faire. Il faudrait qu'elle vienne les rechercher, parce que là, ça m'encombre.
Salut Daniel. Ce matin, comme tous les matins, je me réveille. À 7h, je mets les infos sur France Inter, comme il se doit. Et là, qu'est-ce que j'entends? Roselyne Bachelot, himself, qui est en train de nous expliquer comment elle a sermonné les Bleus. Et elle signe sur ces mots qu'il va falloir graver dans le marbre. Ils m'ont applaudi et ils ont pleuré. Voilà, en parlant de l'équipe de France. Curieusement, cette petite phrase a été coupée des montages de 7h30, 8h, 8h30, 9h, parce que ça valait quand même son pesant d'or. Et moi, je veux voir ces images-là de l'équipe de France applaudissant Roselyne Bachelot en pleurant. Voilà. Alors moi, ce qui me fait honte depuis pas mal d'années, ça fait quand même plus de 3 ans, hein, on va dire que ça dure, c'est nos hommes politiques et nos femmes politiques. C'est surtout ça qui me fait honte. C'est leur comportement, c'est leur incompétence. C'est beaucoup plus pénalisant pour la France que ces pingouins qui jouent mal au foot, dont on en a rien à foutre, franchement. Par contre, nos hommes et nos femmes politiques, mais c'est plus possible, quoi. Je peux plus les supporter. Surtout elle, Roselyne Bachelot, quand même, cette femme qui a fait paumer 1 milliard d'euros à la France avec ses vaccins à la con, et elle se permet aujourd'hui d'aller tenser les joueurs, et les joueurs se lèvent, je sais pas, j'invente là, mais j'imagine, ils ont dû se lever forcément en pleurant pour l'applaudir.
Tout sourire.
France 24.
14 juin 2010.
Oubliez les rumeurs de dissonance dans le couple franco-allemand. Nicolas Sarkozy et Angela Merkel sont sur la même longueur d'onde. Et ils le disent.
Je pense que l'Allemagne et la France ont montré qu'elles sont en capacité d'agir et qu'elles veulent forger l'avenir de l'Europe.
Et la fermeté du couple franco-allemand vaut aussi pour l'économie mondiale, dans la perspective du prochain G20 fin juin au Canada.
Nous allons envoyer une lettre au Premier ministre canadien pour porter un projet de taxe sur les transactions financières et pour réclamer la création d'une taxe bancaire.
Ah, vous avez entendu, c'est pour bientôt. En route pour le G20 avec Antoine Chao et James Galbraith, Suzanne George, Aurélie Trouvé et Dominique Plion d'Attaque.
Surtout en 2004, une épidémie de la fraude, hein, de la fraude dans le secteur foncier, sur les hypothèques. Et rien n'a été fait là-dessus.
On va revenir là-dessus. Je voudrais qu'on attaque. On attaque. On a trouvé un studio formidable. On a un studio de 3 mètres carrés. Et autour de ce micro, il y a James Galbraith qui est en train de parler, qui est un économiste américain, on précisera ça. Suzanne George, formidable, on n'a plus besoin de la présenter. Aurélie Trouvé, encore un petit peu. Elle est la vice-présidente d'Attaque.
Co-présidente
d'Attaque. Et Dominique Plion qui est quoi, Attaque?
Attaque, expert. Président du conseil scientifique.
Voilà, c'est un bon moment parce que ça marque le renouveau d'Attaque. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est ça. C'est Attaque qui repart à l'attaque. Et qui repart à l'attaque avec deux nouveaux membres. L'un s'appelle Nicolas et l'autre s'appelle Angela, qui vont partir dans quelques jours à Toronto pour porter les couleurs d'Attaque et les idées d'Attaque, qui datent de 12 ans maintenant quand même. Ça leur est arrivé, ils ont compris ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire taxer les produits financiers et taxer les transactions financières, TTF. Ils vont, ces deux-là, Nicolas et Angela, main dans la main, à Toronto, convaincre les autres, c'est-à-dire ceux du G20, qu'il faut taxer les transactions financières. Chaque jour dans le monde, 6 000 milliards de dollars s'échangent et une minuscule taxation dégagerait des sommes très importantes qu'on pourrait attribuer à des bonnes choses. C'était l'idée d'Ignacio Ramonet il y a 12 ans dans un éditorial fameux qui s'appelait « Désarmer les marchés ». Et dans « Désarmer les marchés », il y avait l'idée d'armes, il y avait l'idée de guerre sociale, il y avait l'idée de guerre économique. Et voilà, en tous les cas, c'est une bonne nouvelle. Mais est-ce que vous y croyez, les uns et les autres, Suzanne George, est-ce que vous croyez que ça va marcher?
Je pense que beaucoup de pays ont déjà dit qu'ils n'accepteront pas une taxe sur les transactions financières. Et Merkel a dit, si le G20 ne l'accepte pas, je propose à l'Europe. Et si l'Europe ne l'accepte pas, c'est l'Allemagne et la France qui le feront. Mais bon, ça ne va pas suffire. Et Attaque a encore du pain sur la planche parce que notre idée, effectivement, c'est la manière de sortir de la crise. Si on utilise cet argent qui pourrait être récolté, ça pourrait d'une part diminuer un petit peu la spéculation et d'autre part réparer les dégâts sociaux et faire une conversion vers une économie verte. On pourrait résoudre la crise écologique et la crise sociale en s'attaquant aux marchés financiers. Seulement, les autres pays du G20 ne vont pas en prendre le chemin et comme c'est une organisation où il faut l'unanimité, ça, à mon sens, ça ne va pas se faire tout de suite. Jusqu'ici, le G20, ça a été plutôt une coquille vide.
Donc, vous n'avez pas tellement confiance?
Je n'ai pas confiance dans l'action du G20, ça, certainement pas. Je pense que c'est une organisation auto-légitimée qui voudrait retourner au business as usual, qui voudrait vraiment que les affaires continuent comme avant et qui va réguler un tout petit peu à la marge, mais que ça n'ira pas plus loin. Ils sont plutôt là pour freiner que pour innover.
Dominique Plion, vous y croyez?
Je crois que les politiques qui sont menées par les gouvernements en Europe et le message qui va être porté au G20, c'est plutôt de rassurer les marchés. C'est-à-dire de faire en sorte que les marchés continuent, comme disait Suzanne George, à fonctionner le mieux possible. Donc il n'y a aucune remise en cause de la logique prédatrice et de la logique déstabilisante, spéculative des marchés, alors que nous disons qu'il faut désarmer les marchés. C'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre en place des instruments. Les taxes en sont un, mais il n'y a pas que les taxes. Il y a aussi la possibilité d'interdire certaines opérations de type purement spéculatif, par exemple sur les produits dits dérivés, comme les CDS, hein, qui ont été l'instrument numéro un de spéculation contre la dette grecque. Et nous, nous disons, c'est ça qu'il faut faire. Donc, nous faisons pression. Je ne serais pas trop pessimiste. Je pense que dans l'opinion, il y a un début de prise de conscience. Il n'y a que ça qui pourra faire bouger un jour les gouvernements. Et ça, c'est extrêmement important. Et nous travaillons dans ce sens.
Mais si ça s'installait, qui contrôlerait ça? Qui organiserait ça? Parce qu'on a plein de « on » là. Suzanne, elle disait « on ». Ce serait qui le « on », Suzanne?
Qui le « on » Le « on », c'est d'une part les marchés. Ça, c'est de leur côté.
Non, mais qui contrôlerait tout ça? Qui organiserait?
Qui contrôlerait? Je crois que ça ne pourrait être que les lois, que la démocratie internationale, de façon ultime. Entre-temps, ça va être forcément les États, et ce serait imposé par les banques centrales d'avoir une taxe, s'il y en avait une. Mais je voudrais dire que techniquement, c'est tout à fait faisable. Les obstacles sont politiques et idéologiques. Les obstacles ne sont pas du tout techniques. On essaie encore de dire
Aurélie,
ça.
Quelle confiance vous avez?
Je trouve que Dominique a raison. C'est qu'il y a 12 ans, c'était un peu la maraude d'attaque. Aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a une prise de conscience générale. Bon, là, on est en train de lancer une pétition internationale avec des dizaines d'organisations du mouvement social et écologiste. On en est à des dizaines de milliers de signatures. En France, c'est juste en train de partir, hein, mais il y a évidemment Attac, il y a plein de syndicats, etc. Et ça part vraiment. Alors par contre, je voulais dire, sur Sarkozy, il faut faire très attention parce qu'il est malin. C'est-à-dire que Merkel a dit, si ça marche pas au G20, on le fera en Europe. Sinon, entre la France et l'Allemagne. Bon, au dernier conseil des ministres des Finances, Lagarde s'est bien abstenue d'approuver les dires de l'Allemagne. Hein. Et donc, ils ont dit non, on le proposera qu'au G20, sachant que ce sera peut-être refusé par les autres, certainement d'ailleurs.
Oui. Mais quand on sait que ces déplacements de fonds sont planétaires, comment est-ce qu'on peut limiter ça, l'exercer seulement en France, seulement en Allemagne? C'est possible, ça?
Non, pas vraiment. C'est pour cela que quand Merkel a dit au début, avant de faire cette proposition-là, qu'elle allait interdire la vente de ce qu'on appelle les CDS nus, c'est-à-dire un type de produit dérivé extrêmement nocif qu'on devrait éliminer tout de suite, on savait que ça n'aurait aucun effet parce qu'en Allemagne, on en vend très peu et que ça se passe à la cité de Londres et à New York. Donc, ça n'aurait pas grand effet. Non, il faut qu'il y ait beaucoup plus d'unité parmi les peuples qui disent non, qui résistent et qui proposent. Nous avons plein de propositions. Dominique l'a dit. Nous avons aussi la proposition sur la fermeture des paradis fiscaux. L'argent est plein partout dans le monde. Le monde croule sous l'argent. C'est pas ça qui manque. Mais ils refusent d'aller le chercher là où il est. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut des taxations internationales. Parce que si on reste qu'au niveau national, on ne résoudra jamais cette crise qui va se propager, qui n'est pas du tout finie et qui est maintenant chez les États, mais qui va revenir vers les banques. C'est une patate chaude qu'on jette des banques aux États, de nouveaux banques, etc.
James Galbraith, on l'a compris, c'est des militants d'attaque, ils sont d'accord tous les trois, mais vous, au moins, vous êtes neutre. Et objectif. Qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité? Est-ce que vous avez confiance dans le projet de nos deux leaders européens?
L'idée d'un impôt sur les finances a été originée il y a, je crois, 30 ans au moins, par mon ancien professeur d'économie, James Tobin, à Yale University. Je suis très fidèle à sa mémoire, donc je sympathise. Et surtout maintenant, l'objectif de diminuer le secteur financier, c'est un aspect très important pour une résolution de la crise. Mais ceci dit, il faut dire que les États-Unis n'accepteront pas, le Congrès des États-Unis n'acceptera pas, la Maison-Blanche n'acceptera pas. Et mon collègue professionnel Larry Summers, qui était à un certain moment en faveur de Tobin Tax, ne l'est plus. Donc, je crois que vous êtes dans une position où c'est un peu le grand geste de la part du président de la France et chancelier allemand. Pour finir, on arrive à une espèce d'impasse qui sert des objectifs politiques, mais qui ne nous avance pas sur la voie d'une résolution de la crise.
Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Suzanne, que c'est un refus de la part du Congrès, de la part d'un certain nombre de pays? C'est un refus de nature idéologique, elle a dit.
Le problème aux États-Unis, le gouvernement des États-Unis ne manque pas d'argent. Le problème chez nous, c'est une question de pouvoir politique, de l'influence du secteur financier au sein du système politique américain. C'est-à-dire, j'ai travaillé sur le banking, sur la Chambre des représentants, et c'est une machine pour délivrer l'argent pour le soutien des hommes publics dans les deux parties. C'est pour cette raison que le projet de réforme du système financier avance à petits pas. Bien sûr, on va faire quelque chose, mais il est très sûr que ce qu'on va faire, nous n'arrivons pas par cette voie à un système bancaire sain et sauf, non.
James vient d'évoquer Tobin. Oui. On sait quand même comment au départ, je reviens à l'histoire d'attaque, oui. C'était la taxe Tobin qui était, voilà, on va imposer, il faudrait imposer la taxe Tobin. Et à un moment, Tobin lui-même, donc le professeur de notre ami James, est intervenu en disant non, c'était pas mon but. Là, il y a eu un hiatus entre attaque et Tobin.
D'une part, Tobin...
Même si au fond, c'est un détail.
L'objectif de Tobin était de diminuer la spéculation. À l'époque, il y avait à peu près 80 milliards d'échangés sur les monnaies. Depuis, Attac a beaucoup innové sur cette idée. D'une part, ça ne devrait plus toucher que les monnaies, qui sont maintenant, c'est 40 fois plus qu'à l'époque de Tobin. Mais sur toutes les transactions financières, ça c'est l'une des innovations, parce que là on est à... Mais si, ma chère, si tu prends toutes les transactions dans une année, et là je prends les chiffres de la Banque internationale, des règlements internationaux, la Banque centrale des banques centrales, si l'on veut, il y a dans une année 600 000 milliards de dollars qui s'échangent. Je ne peux même pas concevoir ce que c'est que cette somme. C'est 10 fois le PNB du monde. Alors, si on taxait tout cela, même à 1 pour 1000, 1 pour 10 000, même 1 pour 100 000, on constitue des fonds. Moi, je me mêle les pieds dans les zéros, je ne sais pas exactement combien. Mais ça, c'est une innovation d'attaque, d'une part, toutes les transactions. Et d'autre part, nous avons aussi des raffinements du type, s'il y a un mouvement trop grand sur les bourses en une journée, il y a une taxe qui interviennent, qui est à 40 ou 50% taxes confiscatoires, etc. Il y a d'autres raffinements. Mais Tobin n'avait pas dénoncé sa taxe à lui. Il avait dénoncé les raffinements et puis tout le programme d'attaque, parce qu'attaque a ajouté pas mal de choses et il n'a pas voulu avoir l'air de soutenir le programme total d'attaque qui est allé bien au-delà des taxations des transactions.
S'installe un bien curieux marché où l'on s'arrache les ressources mondiales et où le monde se vante à la crier. Dans les ruelles, on voit le développement, gisent les corps de bien des habitants, oubliés là par nos belles nations, trop occupés à compter leurs oignons. Je me promets les yeux au vent lorsque devant moi marchand me propose une immense. Elle est à vendre. Je vous explique pas la belle affaire. On vend le bois pour la terre. Et tant pis pour l'écosystème. La nature c'est pas notre problème. Et puis les gens c'est pas plus important. Dans le tiroir caisse ça représente de l'argent. Sur la grande place occidentale sans mal ce dangereux marché qui organise le commerce mondial sans voir plus loin que le bout de son PIB. Dans les ruelles en voie de développement s'élèvent les voix de quelques habitants vite ignorés par toutes ces nations omnibilés par leur rangée d'oignons.
Alors, j'aimerais, Dominique Pillon, qu'on vienne de la scène politique française. Cette histoire de taxe sur les transactions financières Quelles sont les positions des différents partis, des mouvements politiques en France par rapport à cette taxation?
Il y a une évolution quand même extrêmement intéressante, qui est qu'au tout début, lorsqu'ATTAC est née, donc en 1998, tout le monde nous regardait avec un air narquois et en considérant que notre proposition était complètement irréaliste et irresponsable.
Ça a eu une valeur pédagogique formidable.
Voilà, exactement.
Ça a fait comprendre aux Français, à l'opinion, ce qu'était cette spéculation. On s'est dit, c'est beaucoup de sous qui s'échangent, et si on en prenait un petit peu,
ça a été un instrument politique, et c'est ça qui n'a pas plu d'ailleurs à James Tobin, qui n'était pas un activiste, comme disent les Américains, c'est-à-dire c'était un universitaire, et ce n'est pas quelqu'un qui était engagé politiquement comme nous. Mais en France, pour revenir à votre question, on constate ces dernières années que tous les dirigeants politiques de gauche comme de droite, on peut citer Kouchner, on peut citer, alors est-il à gauche ou à droite, je ne sais pas, on peut citer Bayrou, on peut citer donc Sarkozy, Chirac. Chirac, par exemple, a nommé une commission présidée par M. Landau, qui a fait un très bon rapport sur ce qu'on a appelé les contributions financières internationales il y a 3 ans, a reconnu que les taxes étaient faisables. C'est uniquement une affaire de volonté politique, mais techniquement, les choses étaient faisables et que ça pouvait être souhaitable dans un certain nombre de domaines. Alors, je voudrais, si vous permettez, nuancer un peu compléter ce qui a été dit. Pour nous, il y a 2 objectifs de la taxe, mais il y en a un qui est plus important que l'autre. Les 2 objectifs, c'est de lutter contre la spéculation, et ça, on est fidèle à l'esprit de Tobin. C'est réduire, comme disait Tobin, mettre des grains de sable dans les rouages trop bien huilés de la finance internationale. Et il y a un deuxième objectif qui est de gagner de l'argent, de ramasser des ressources. Pour nous, on est très clair, le premier objectif est le plus important. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas une taxe ridiculement faible, on veut une taxe qui perturbe les marchés. Alors que par exemple, Kouchner dit, moi je veux bien une taxe, alors c'est amusant parce qu'elle dit, il faut qu'elle soit volontaire, alors vous avez déjà vu des taxes volontaires, c'est assez amusant, et il faut qu'elle ne perturbe pas les marchés. Et c'est là qu'on dit, nous, et qu'on fait de la pédagogie dans ce sens, on veut une taxe qui a un impact sur le comportement des acteurs.
Vous êtes grain de sable, voilà. Vous êtes des révolutionnaires.
Des révolutionnaires peut-être, oui, au sens où on veut radicalement changer le système financier. Oui, de ce point de vue-là, on est des révolutionnaires.
Alors, je voudrais qu'on revienne maintenant, puisque James revient, fait un tour en Europe, il revient de Grèce, qu'on parle un peu de la situation européenne et de la crise de la dette dans les pays européens. Et je voudrais qu'on comprenne, que vous nous fassiez comprendre le rôle des marchés financiers dans cette dette. J'aimerais bien comprendre cette histoire.
Je crois d'abord qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas une crise européenne séparée de la crise américaine qui est en cours depuis 3 ans maintenant. Il y a une crise intégrale, une crise mondiale, une crise surtout atlantique. À l'origine de cette crise, nous avons une fraude financière massive dans le marché des hypothèques américaines, c'est-à-dire des millions de prêts qui ont été faits aux particuliers qui ne pouvaient pas documenter leurs revenus, qui n'avaient pas d'histoire de crédit et qui étaient sur des maisons qui étaient surévaluées par des...
Vous parlez des subprimes, là.
Des subprimes, des dizaines et des centaines de milliers de dollars. Il n'y a aucune raison honnête pour qu'une banque accepte une évaluation d'une maison qui est largement au-delà de sa valeur réelle. Mais ça a été fait. Pourquoi? Parce que pour ceux qui étaient à l'origine de ces hypothèques, ils pouvaient gagner leurs revenus d'abord à l'issue de cet instrument, et deuxièmement en le vendant sur le marché financier. Et ce qu'ils ont été fait avec la complicité des agences de notation qui ont attesté que les emprunts qui ont été faits, qui étaient presque certains de faire faillite dans 2 ou 3 ans, des instruments AAA. Les banques d'affaires et les banques commerciales ont vendu ces instruments aux investisseurs partout dans le monde, surtout en Europe, surtout en France et en Allemagne et ailleurs. Les investisseurs qui faisaient confiance dans les agences de notation et dans les entreprises, les grandes entreprises financières américaines avec qui ils avaient l'habitude de faire le commerce, bien sûr. Alors, à un certain moment, on a constaté que ce jeu allait terminer. Le moment, c'est en 2007, où le prix des maisons aux États-Unis a cessé d'augmenter. À ce moment-là, la faillite d'une grande partie de ces hypothèques devenait absolument certaine. Impossible de les refinancer et impossible de continuer de payer les taux d'intérêt là-dessus, parce que les emprunteurs avaient été choisis parmi des gens dont il était impossible d'attendre à ce qu'ils puissent continuer à payer sur les hypothèques. C'était en effet une fraude financière très claire, une fraude dans le sens technique, dans le sens juridique, une fraude énorme, une fraude dont les victimes en grand nombre sont des investisseurs et les pensionnaires d'Europe. Et ça, je crois que c'est très, très important de le comprendre. Parce
et c'est
que
une fraude impunie.
Impunie jusqu'à maintenant. Les roues de la justice commencent à tourner. Il y a des enquêtes, il y a des poursuites en Californie, en Floride. Et il y a des gens qui sont devant la justice maintenant. Il y a des enquêtes qui visent les grandes banques. Il y a eu une plainte de fraude civile contre Goldman Sachs par le SEC. Mais pour la plupart, non. C'est une fraude qui reste impunie et les institutions qui l'ont faite restent sous la même gestion qu'ils avaient à l'époque. Les dirigeants des grandes banques n'ont pas changé.
Rien n'a changé.
Non, certains ont changé, bien sûr, mais vous pouvez regarder, les chefs d'entreprise sont pour la plupart.
C'est-à-dire que les États, l'État américain en l'occurrence, n'a rien fait, n'a rien pu faire sur ces fraudes.
Non, je n'irai pas aussi loin. Je dis que jusqu'à maintenant, on n'a pas fait ce qu'il faut faire, qu'il faut que les victimes de cette fraude soient conscientes de l'origine de la crise. Quand on parle de la spéculation, quand on parle d'un boule qui éclate, ce sont des mots très vagues, ce sont des métaphores. Mais quand on parle de la fraude, on parle d'une chose très concrète qu'on peut démontrer avec les documents. Il suffit d'obtenir les documents sur les hypothèques et de les regarder de près pour se satisfaire que la plupart était frauduleuse. L'agence de notation Fitch, en 2007, a fait une petite étude sur certains des titres qui ont été faits sur les maisons des particuliers aux États-Unis. Ils ont trouvé qu'il y avait les traces de la fraude, de l'absence des documents nécessaires et d'autres abus dans presque tous les dossiers. C'est-à-dire, ce n'était pas l'exception.
Il y a des milliers de dossiers.
Des milliers, oui. On parle des millions. On parle d'une industrie qui faisait carrément 40% de toutes les hypothèques qui ont été contractées aux États-Unis en 2006-2007. 40%.
Je voudrais dire que les banques ont préparé tout cela de longue main parce que, bon, moi je viens de publier un bouquin qui s'appelle « Leur crise, nos solutions ». Mais leur crise, pourquoi ? Parce que ils les ont fabriquées dès le début. Les banques ont fait des actions de lobbying qui coûtaient 5 milliards de dollars sur une période d'une dizaine d'années, qui pour eux n'était rien du tout. 5 milliards pour eux, c'est pas grand-chose. Mais ça permettait d'abroger une douzaine de mesures, dont la plus importante, c'était la mesure qui avait été mise en place sous Roosevelt en 1932, et qui séparait les banques commerciales des banques d'investissement. Et cet acte dit Glass-Steagall, par les noms des sénateurs qu'il avait mis en place, était très important parce que les banques ne pouvaient pas entreprendre certaines activités si elles avaient une clientèle privée. La banque commerciale, c'est là où vous avez votre chèque de salaire, vous le déposez, vous pouvez demander un crédit, etc. Mais vous n'allez pas avoir la même banque qui s'occupe des grandes entreprises, des grandes fusions et acquisitions. Ça, c'est les banques d'investissement qui font des deals et qui sont rémunérées sur honoraires. Et quand on a pu mettre ces deux types de banques ensemble, ça faisait l'établissement qui était, comme on dit en anglais, « too big to fail », trop grande pour faire faillite. Et sachant que l'État interviendrait, si elle faisait trop de bêtises, elles n'ont cessé de faire des bêtises. Quant aux subprimes, James a parfaitement raison, c'était préparé de longue main. Le gouvernement savait parfaitement, et Bush avait dit « il faut que tout le monde ait une maison ». Alors ils approchaient des gens qui avaient très peu de revenus. Mais qu'est-ce que disaient les banquiers entre eux? Ils disaient « ce sont nos prêts neutrons ». Parce que comme la bombe neutron, ça détruisait les gens, mais ça laissait les maisons intactes. Et ils se sont dit, soit on aura le paiement, soit on aura la maison qu'on pourra revendre. Alors nous, on ne peut pas perdre. Mais là où ça tue, c'est que ça a mis plusieurs millions de familles dehors parce que leurs maisons ont été repossédées. Et nous vivons encore sous le régime de cette immense libéralisation que les banques ont voulu, qu'elles ont payé et qui a permis aussi de tuer littéralement, parce que quand les spéculateurs ont bien vu que la bulle des subprimes éclatait, ils se sont reportés sur les marchés des denrées, blé, maïs, soja, etc. Et ils ont fait monter les prix. Les prix étaient multipliés par 3. Et ça, c'est le prix mondial, le prix d'exportation américain. C'est le prix mondial. Et donc, il y a des familles en Inde, au Mexique, au Bangladesh, en Ouzbékistan, que sais-je, qui ne peuvent plus manger. Et ça a précipité des dizaines de millions de personnes dans les rangs de ceux qui ont chroniquement faim. Donc, une crise financière, ça tue aussi.
James Galbraith, quel lien on peut faire entre ce qu'on vient d'expliquer sur les subprimes, le lien qui vient d'être fait avec la faim dans le monde, et la Grèce, vous revenez de Grèce. Quel lien entre ce phénomène aux États-Unis, les subprimes, c'est aux États-Unis, et la crise actuelle en Europe?
Effectivement, c'est très simple. La Grèce a toujours été un pays assez mal gouverné, avec des difficultés à faire passer les impôts sur ses riches et avec des problèmes d'administration publique. Mais ces difficultés que le gouvernement actuel de la Grèce est tout à fait au courant et sur lesquelles il travaille, mais ces difficultés étaient tolérées par les marchés financiers pendant la période d'expansion de crédit. C'est justement ça. Dans une période d'expansion de crédit...
Le gouvernement grec a des problèmes, il emprunte.
Oui, bien sûr.
C'est ça, il emprunte.
Mais aux banques européennes, aux banques mondiales, avec des taux d'intérêt qui sont un peu plus élevés que le taux sur les titres allemands, les titres français. Et pendant la période expansionniste, ça a été très facilement toléré. Mais les choses ont changé en fin 2008, début 2009, juste à l'instant de la crise américaine. Alors, il y a une fuite envers la qualité, une fuite envers la sécurité. Et les taux d'intérêt grecs commencent dès ce moment-là à augmenter. Donc, la crise grecque, ça fait partie du même phénomène. C'est la même chose que la crise américaine. C'est le résultat d'abord d'une fuite envers la sécurité et deuxièmement de la spéculation contre les titres du gouvernement grec, parce que ça donne à la Grèce encore des difficultés quand il faut qu'ils reviennent au marché pour renouveler leur dette publique. Ce moment est arrivé, mi-mai.
Dominique Pillon, moi, je reviens à ma question de tout à l'heure. Dans quelle mesure la population grecque actuelle comprend ce qui lui arrive? Qui en Grèce comprend ce que James raconte?
Alors j'ai eu aussi l'occasion d'aller en Grèce, j'y étais d'ailleurs au moment de la première manifestation début mai, et en parlant, évidemment j'ai parlé à un échantillon très 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 réduit, j'ai pu voir des universitaires, des syndicalistes, des militants, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une conscience assez grande de ce qui se passe. Ils reconnaissent, un, comme l'a dit James, qu'il y a des problèmes avec leur gouvernement. Il faut savoir qu'en Grèce, par exemple, il y a 35% du PIB qui est dans le secteur dit informel, c'est-à-dire où les revenus échappent à toute forme ou à toute forme de fiscalité. Donc déjà, il y a un manque à gagner qui est colossal pour les autorités grecques. Et ça, c'est connu, c'est accepté et c'est des privilèges. Parce que ce n'est pas les petites gens comme dans les pays en voie de développement qui sont dans le secteur informel. Là, ce sont les chefs d'entreprise, les artistes, les professions libérales, etc. Et donc, les Grecs savent qu'il y a un vrai problème avec leur budget, avec leur fiscalité. Et ils voient bien que donc, ils ont une part de responsabilité dans leur crise. Mais ce qui les révoltait, c'est qu'on a fait une pression sur eux pour résoudre brutalement ce problème de leur finances publiques en exigeant d'eux rapidement un plan d'austérité. Et ce que disaient les Grecs, c'est que quand Papandréou est arrivé au pouvoir, au début, il a mené une politique de consolidation, d'aide, enfin de budget, pour essayer de réduire le déficit, et qui était assez bien perçu parce qu'il y avait un équilibre. Les populations les plus héritées étaient moins touchées, il y avait une équité relative dans ce plan. Et dès que la crise est arrivée et que les Européens ont fait pression, puis le Fonds monétaire, c'est alors que le plan s'est durci et qu'à ce moment-là, toutes les couches de la population, et en particulier les plus faibles, les plus pauvres, ont été frappées par la crise. Et c'est là qu'il y a eu un sentiment d'injustice et de révolte, et qu'ils ont vraiment tout à fait conscience dans ces couches-là de la population qu'il y a un problème, il y a une façon de résoudre la crise qui est exigée d'eux, qui est inacceptable. Donc je crois qu'il y a vraiment une conscience dans l'opinion. Les journaux disaient bien, les manchettes des journaux disaient bien que c'était une politique d'austérité inéquitable. Donc je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, et ils relient ça au fonctionnement de l'Europe, voire même de l'économie mondiale via le Fonds monétaire international.
Allez, on va se dire. Allez, on va se dire. des marchés, du conquérir de nouveaux marchés.
La croissance, c'est l'emploi.
Lutter, c'est vivre.
Des problèmes. Alors moi, après, c'est pas compliqué.
Il faut redonner au français le goût du travail.
Allez au boulot, là.
Et finalement, on peut faire le lien entre la grande fraude dont nous a parlé James et puis finalement ce qui nous arrive à nous en Europe dans nos conditions sociales. Parce que finalement, ça s'est transféré, cette grande fraude financière, au marché financier européen. Et puis cette dette privée, cette fragilisation privée s'est transformée ensuite en grande dette publique avec des aides massives aux circuits financiers, aux banques, etc. sans contrepartie. Hein, souvent de la part des gouvernements, on n'a pas mis de conditions dessus, on s'est pas attaqué aux causes en régulant fortement les marchés financiers. Le résultat, c'est que cette crise, elle va pas être payée par les marchés financiers, elle va être payée par les citoyens via des grands plans de rigueur, d'austérité drastique dans toute l'Europe, dont la réforme des retraites en France est un élément d'ailleurs. Hein. Et finalement, on estime que c'est une poussée énorme et à nouveau du néolibéralisme économique, dans le sens où on va avoir un transfert de richesses à nouveau énorme entre, d'une part, les revenus du capital et les revenus du travail, et que ce sont les salariés, les chômeurs, les retraités, etc., qui vont payer la note. Et là, la question maintenant, c'est comment les citoyens, les mouvements sociaux européens vont être capables de réagir, et voire plus encore à l'échelon international, comment on va être capable de réagir et de peser sur ce qui est en train de nous arriver.
Quelles sont les pistes ?
C'est toute la difficulté de la construction peu à peu d'un mouvement social européen. Parce qu'à mon avis, les résistances nationales sont absolument indispensables, et on le voit aujourd'hui sur les retraites en France. Mais je pense qu'il est nécessaire d'aller à l'échelon au-dessus, à l'échelon européen. Et alors, par exemple, il y a un forum social européen début juillet. En septembre, il y a une journée de mobilisation appelée par la Confédération européenne des syndicats, etc. Et là, il va falloir qu'on continue ce qu'on avait commencé à faire au moment du traité constitutionnel européen, de Bolkestein, etc., d'être capable de nous coordonner entre mouvements sociaux nationaux au-delà de nos priorités nationales pour être capable de peser jusqu'à un échelon européen.
Suzanne, des pistes, des solutions.
Je crois qu'Aurélie l'a très bien dit. Le maître mot, là, c'est alliance. Il faut être ensemble sur les grandes occasions et mettre la pression sur les gouvernements, parce que les gouvernements n'ont pas envie d'agir. Les gouvernements, hélas, actuellement, gouvernent pour le bénéfice de quelques-uns, à commencer par les marchés dont soit ils ont peur, soit ils ont envie de les contenter. Et donc, ils vont donner des gages continuellement aux marchés qui sont insatiables, complètement insatiables. Et si les gouvernements ne sont pas forcés à changer leur politique, nous allons être rétrogradés. Oui.
Ça, ce que vous dites là est très général. C'est les grands principes qu'on partage tous. Est-ce que vous avez des pistes plus précises ?
Ok. Alors, moi, j'ai la piste. Toute banque qui a reçu des fonds publics devrait être partiellement ou totalement socialisée. Socialisée, ça veut dire doit recevoir un cahier des charges qui dit désormais, vous allez prêter X% de votre portefeuille, de votre patrimoine, à des projets de conversion verte et à des entreprises socialement organisées, c'est-à-dire avec la participation du travail. Les banques n'existeraient plus sans nous, c'est notre argent. L'argent pour les sauver se monte à 14 000 milliards, selon des chercheurs de la Banque d'Angleterre, comme 14 000 milliards de dollars est un chiffre impossible. Je l'ai calculé en termes de secondes. Chaque seconde sur votre montre fait un dollar. Ça fait 450 000 ans de tic-tic-tic pour faire 14 000 milliards. C'est ce que les banques du monde ont reçu. Bon, alors, de qui ? Du ciel ? De Dieu ? Non, de nous, de nos poches. Donc, les banques sont à nous. Elles n'existeraient pas sans nous. Et donc, nous n'avons rien eu en retour. Il est temps d'avoir quelque chose en retour. Donc, socialisation des banques avec préférence donnée aux PME-PMI avec un projet vert, un projet social. Bon.
On voudrait que les tigres mangent de la salade.
On voudrait les forcer à changer de régime ou alors ne manger que tous les deux jours de la chair fraîche, mettons. Parce que je n'ai pas demandé...
On va faire maigrir les tigres. Voilà. On va faire maigrir les tigres.
D'autre part, annuler la dette du Sud, ça fait 10 ans qu'on en parle au G20 ou G8. On ne l'a jamais fait, ça n'a pas changé pour le Sud. Annuler cette dette dont on n'a pas besoin, de manière à demander en retour des projets de réafforestation. Parce que la crise financière a chassé complètement la crise écologique de la une et des radios et des télés. Mais pour moi, c'est la crise irréversible. Si ça prend vraiment son élan, c'est terminé. Bon. Donc, fermeture des paradis fiscaux. Ça, c'est absolument nécessaire. Et taxer ceux qui peuvent le mieux payer parce que, comme l'a très bien dit Dominique et Aurélie, actuellement, ces personnes-là ne sont vraiment pas taxées. On a passé les 30 dernières années à réduire les impôts sur ceux qui sont le plus en mesure de payer. Séparation des banques commerciales, des banques d'investissement, etc. Le plus long chapitre de mon bouquin porte sur les solutions.
Il y a des solutions, James ?
Il faut demander la justice. La réforme réelle du système financier commence avec la justice. C'est la réforme des institutions qu'il faut, changement de personnel, changement des codes de conduite pour ces institutions-là. C'est la justice seule qui peut accomplir ça. Deuxième point, il faut insister que la politique d'austérité n'est pas une solution économique. Donc, on ne résiste pas à un programme qui va résoudre la crise. On résiste à un programme qui ne va pas résoudre la crise, qui va l'aggraver, qui va aggraver le chômage, qui va aggraver la chute de production. Le FMI lui-même a une étude qui démontre que la moitié de la hausse des déficits budgétaires dans la crise est due à la diminution des revenus, non à l'augmentation des dépenses publiques, à la diminution des revenus par la suite de la crise elle-même. En coupant les dépenses d'État, en coupant des dépenses publiques, on ne fait que renforcer cette diminution et affaiblir les économies.
C'est-à-dire qu'il faut augmenter les dépenses publiques ?
Bien sûr, il faut augmenter les dépenses publiques. C'est une façon la plus facile et la plus directe. Mais deuxièmement, il y a les crédits. Et c'est pour ça qu'on a un système financier. C'est pour ça qu'on a des banques. Mais les banques ont effectivement fait faillite. Aux États-Unis, le niveau de crédit fait par les banques en 2009 a diminué de plus de 600 milliards de dollars. Le système ne fonctionne plus. Donc, il faut d'abord faire une réduction des dettes. Une réduction des dettes privées aux États-Unis, des dettes publiques en Europe. C'est inévitable, mais il faut ensuite avoir un système pour avancer le crédit, pour faire ce qu'il faut faire. Et si les banques ne sont pas capables, s'ils ne veulent pas poursuivre cette fonction, il faut avoir des institutions parallèles qui peuvent le faire. Et pour ça, vous avez les
modèles. C'est quoi les institutions parallèles ?
Vous avez les modèles dans l'histoire financière de l'Europe, du Japon, des États-Unis même, dans le New Deal et dans la France. Après-guerre, quand vous aviez tout le système de caisses de dépôt et consignation, de crédits agricoles, crédits fonciers, crédits industriels et commerciaux, crédits hôteliers.
Même. Ah, vous faites du John Galbraith
je fais de Jean Monnet, je fais de Charles de Gaulle. Je fais ce qu'on a fait même pour créer l'Europe moderne de l'après-guerre. Ce n'est que depuis 30 ans seulement qu'on a libéré les banques commerciales pour faire tout le travail du système de crédit. Avant ça, on ne dépendait pas d'elles. Il faut recommencer avec les leçons de notre propre histoire.
Dominique ?
Aujourd'hui, je pense que la crise a ceci de bon, que je crois que les gens, les citoyens, les usagers des banques sont absolument révoltés par la manière dont les banques se comportent et se sont comportées. Et je crois que là, il y a un point de départ tout à fait intéressant pour faire une pression pour organiser une résistance. Je crois que le mot de résistance qui a aussi été employé est important. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la rentrée, là, nous allons organiser une campagne sur les banques. Changer les banques, changer de banque. C'est l'intitulé de notre campagne. On pense que les gens sont capables maintenant, ils ont pris conscience et que collectivement on peut s'organiser pour faire une pression permanente sur le système bancaire pour qu'il revienne à son métier, à sa fonction, qui pour nous est un service public d'ailleurs, ce qui justifie d'ailleurs la socialisation du système bancaire. Et en s'appuyant sur l'opinion, qui aujourd'hui est tout à fait mûre, je pense, pour cela, on peut arriver à marquer des points décisifs contre ce système bancaire complètement dévoyé, qui aujourd'hui est antisocial et extrêmement dangereux pour l'économie, nos économies et l'économie mondiale.
En conclusion, Suzanne ?
Les banques sont à nous. C'est un slogan très simple. Nous avons payé pour qu'elles existent encore. Elles sont à nous. C'est à nous de dicter ce que devrait être leur fonction dans la société.
Tous banquiers. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Tous banquiers. Merci à tous. Merci à Aurélie Trouvé, Dominique Plion, Suzanne Georges et James Galbraith. Merci à Antoine Chao. Merci à toutes et toutes. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas. Si j'y suis, vous pouvez réécouter soigneusement cette émission et faire des commentaires. Même jeu sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, Julien Chabassu et Henri Béret. Coyen Guyenne et Raphaël Moutarde ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebot et Céline Rouzet. Attends vos messages au répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Bonjour, Caroline de Tabac Info Service. Je vous écoute.
Bonjour, voilà. Ma femme a réussi à arrêter de fumer il y a un an, mais pas moi. Alors depuis, elle insiste pour que je réessaye, mais...
Je comprends. Pourquoi ne pas profiter de vos prochaines vacances ? Le changement de rythme est idéal pour arrêter. Moins de stress, on fait du sport, on dort...
Mais je vais devenir invivable, moi.
Non, vous savez, il y a des solutions pour limiter le stress. Vous voulez qu'on voit ensemble ce qui n'a pas marché la dernière fois ?
Vous voulez arrêter de fumer ? Appelez Tabac Info Service au 39 89 et bénéficiez des conseils personnalisés d'un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé. 15 centimes la minute.
MAF Assurance, bonjour.
Oui, c'est ça, bonjour. Une question, chez MAF, êtes-vous assez efficace pour proposer un crédit auto ou moto vraiment pas cher, de chez vraiment pas cher ?
2,90% TEG avec le pack Maxi Tranquille, ça c'est une réponse, non ?
2,90%, mais c'est...
Efficace et pas cher, absolument.
2,90%.
2,90% TEG sur 12 mois, c'est bien ça.
Oh, Miss MAF, recevez l'expression de mes sentiments, les mieux assurés.
C'est la MAF.
Offre soumise à conditions réservée aux particuliers jusqu'au 31 juillet 2010. Prêt automoto de 1600 à 45 000 euros distribués par MAF et OB de ma banque. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé d'un particulier avant l'obtention d'un prêt d'argent. Conditions détaillées au 0800 130 131. Appel gratuit depuis un poste fixe.
À demain, 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Tessa Groman. Salut!
Ça y est, on y est, il est 16h, les Bleus sont sur le terrain, ils ont une heure et demie pour tenter l'impossible, une qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2010. Exit Patrice Evra, le capitaine de l'équipe de France, Florent Malouda et Eric Abidal. Ainsi, on a décidé Raymond Domenech pour mettre fin à la fronde. Vincent Pellegrini, vous êtes au poste à Bloemfontein, racontez-nous ce que vous voyez.
Sous un très beau soleil, alors que les joueurs sud-africains se sont regroupés aussi, ils ont encore une petite chance de qualification et le coup d'envoi va être donné par l'équipe de France avec Djibril Cissé et Franck Ribéry. Les Français qui n'ont plus, comme les Sud-Africains, leur destin en main, il leur faut s'imposer très largement cet après-midi sous le très beau soleil de Bloemfontein dans un stade qui a fait le plein, 45 000 spectateurs, et il faut surtout espérer que à 300 km d'ici à Rustenburg, les Uruguayens et les Mexicains ne fassent pas match nul, car dans ce cas, les Français et les Sud-Africains seraient éliminés à l'instant le coup d'envoi de cette rencontre donnée par le Colombien Oscar Ruiz. En direct de Bloemfontein, Vincent Pellegrini, France Inter.
Merci Vincent, on vous retrouve dans une heure évidemment pour faire un point sur la rencontre et celle de Rustenburg également. L'État ne baissera pas le salaire des fonctionnaires, annonce faite cet après-midi par le ministre du Travail, Éric Woerth. Ce matin, le journal Les Échos assurait que le gouvernement prévoyait un gel des salaires sur 3 ans, alors que des négociations salariales pour la période 2011-2013 dans la fonction publique s'ouvrent vendredi. Le ministre parle de maîtrise de la masse salariale pour réaliser des économies sur les dépenses publiques. L'état de catastrophe naturelle a été officiellement déclaré aujourd'hui pour 22 communes du Var, après les inondations de la semaine dernière qui ont ont fait 25 morts et 3 disparus. Plus de 1000 entreprises ont été touchées par les intempéries. Une nouvelle cartographie des zones à risque en France doit être redessinée d'ici 2011. Objectif, interdire toute construction sur ces périmètres. Aux États-Unis, les travaux du pétrolier BP pour stopper la fuite du puits dans le golfe du Mexique devraient s'achever un peu plus tôt que prévu, c'est-à-dire la deuxième semaine d'août. BP estime dorénavant que le volume de pétrole qui s'échappe chaque jour du puits pourrait s'élever à 100 000 barils dans le pire des cas. Et puis il n'y a pas que du foot, il y a du tennis aussi. Au tournoi de Wimbledon, le Français Paul-Henri Mathieu s'est qualifié aujourd'hui pour le second tour en battant un autre Français, Marc Jiquel, 6-1, 7-5, 3-6, 6-1. Qualification aussi de Gilles Simon qui a battu également en 4-7 l'Espagnol Guillermo Alcaide.
Le fou du roi. Stéphane Bern.
Demain, jeudi à 11h, Stéphane Bern recevra Hervé Morin et Marie-Dominique Poiré. Rendez-vous une demi-heure avant le début de l'émission dans le grand hall de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le fou du roi. Stéphane Bern, du lundi au vendredi à 11h sur France Inter. France Inter, partenaire du Festival de Saint-Denis jusqu'au 1er juillet. Poulenc, Brahms et Mozart dans la Basilique avec les orchestres et les chœurs de Radio France. À retrouver dans les programmes de France Inter. Renseignements sur franceinter.com. France Inter. La différence.
Il est 16h04 sur France Inter. On retrouve Frédéric L'Odéon pour son carrefour de L'Odéon.
Bonjour Tessa.
Carrefour de L'Odéon.
Bonjour à tous, ça y est, l'été est vraiment physiquement là, enfin dans certaines régions en tout cas, sur la région parisienne c'est assez manifeste, et c'est prévu depuis longtemps, les festivals vont commencer à ouvrir leurs portes, ou simplement accueillir les gens, parce que quelquefois en plein air, il n'y a pas de porte du tout. Je vous présente aujourd'hui quelques festivals, pas tous je le dis, parce qu'il reste quelques jours seulement avant la fin de cette saison, avant de recommencer fin août, début septembre, et il y a un concert qui se profile à Paris, salle Pléiel bientôt, c'est jeudi 24, dans deux jours, Anne-Sophie Mutter, superbe violoniste, qui a commencé avec Herbert von Karajan, elle avait 13 ans, alors évidemment, elle a fasciné absolument tout le monde, et Karajan, on le sait, était un chef extrêmement difficile, et il a tout fait pour la soutenir, pour l'aider à trouver un beau violon, bref, elle a grandi maintenant, c'est une charmante et très belle femme, et je me souviens d'un impresario, une dame qui disait toujours, le principal dans la vie, dans la carrière, c'est de durer, eh ben, elle a duré, Anne-Sophie Mutter, elle dure toujours, et de manière splendide. Donc, à Pléiel à 20h jeudi, et je vous propose de l'entendre dans une pièce de circonstance, Summertime, temps d'été, de Porgy and Bess de George Gershwin. Thank you. Summertime, il fait beau, il fait lourd, les récoltes sont bonnes, les poissons sont dans les flots, les eaux, prêts à être attrapés. Bref, un constat de prospérité. Tiré de Porgy and Bess de George Gershwin, transcription de Yasha Eifetz pour violon et piano, et interprété par Anne-Sophie Mutter avec André Previn sur ce disque. Et Anne-Sophie Mutter, la flamboyante, à fleur de peau, vous l'avez entendu, sera donc jeudi à la salle Pleyel avec un pianiste qu'elle fréquente énormément sur la scène, je veux dire, Lambert Orkis. Au programme, Claude Debussy, Félix Mendelssohn, Brahms, Pablo de Sarasate, la fameuse fantaisie sur les airs de Carmen. Et il n'y a pas que Paris, me direz-vous, vous avez bien raison, je le pense aussi, dans le Bourbonnais, autour de Vichy, vendredi, à Ghana, dans le cadre des Nuits de Musique Vivante, une pianiste qui a beaucoup de talent, que moi j'ai entendu au Flânerie Musicale de Reims, c'est Laure Favre-Kahn. Alors elle va être très présente, elle a beaucoup de nature, de tempérament, et de technique, ce qui ne gâte rien, bien sûr. Elle va être présente dans un hommage à Chopin, à l'église de Ghana, 20h30, donc avec l'orchestre d'Auvergne, qui est un orchestre d'élite, on ne le dira jamais assez. Et cet hommage comportera Chopin, mais aussi Mozart, Britten, Scalcottas. Je vous propose d'entendre Laure dans le 8e prélude, très agité, de Frédéric Chopin. Lui, il l'a composé, non pas à Paris non plus, mais à Valldemossa, donc au Baléares, dans les îles Baléares, où le temps était absolument mauvais, exécrable, et les gens très méfiants envers le couple George Sand Chopin, des gens qui se comportaient de manière bizarre et qui en plus n'étaient même pas mariés. Imaginez ça.